on a un contraste extrêmement vif et des affrontements d'opinions extrêmement vifs. D'un côté, on peut citer un sondage fait par l'IFOP, le dernier à ma connaissance des sondages sur l'IFOP, dans lequel on posait entre autres la question quelles sont les trois affirmations qui correspondent le mieux à l'idée que vous faites de l'islam. Venez en queue les expressions « liberté 2%, justice 1%, protection de la femme 1% et démocratie 0%, pendant que venez en tête le rejet des valeurs occidentales 28%, fanatisme 19% et soumission 18%. Et en même temps, vous aviez des réactions dénonçant l'islamophobie délirante de la société française, avec par exemple des propos tels que la dénonciation des coups médiatiques qui, en présumant l'incompatibilité ontologique entre l'islam et la liberté, l'islam et la démocratie, cultive une hystérisation du débat public qui s'inscrit sur fond d'anxiété identitaire. Là, celui qui parle s'exprime ainsi, c'est une libre opinion de gens dans le monde, cessons de stigmatiser les musulmans, la presse a fait de l'islam son punching ball. Et je crois du reste que vous allez avoir bientôt quelqu'un qui va un peu pourfendre l'islamophobie, si j'en crois, disons, ses écrits des ans précédents. Alors, disons, devant ce type, disons, d'opposition, on marche un peu, disons, sur des œufs, et il me semble que le gros des travaux actuels de sciences politiques évite absolument de se lancer sur ce terrain. Et donc vont étudier le jeu des forces sociales, vont étudier l'influence, disons, à court terme de l'histoire, etc., en disant que, surtout, on ne va pas s'intéresser à l'islam. Donc, ça veut dire un argument qui est de dire « il n'y a pas un islam, mais il y a des islams ». Argument, disons, tout à fait juste. Hein. L'islam indonésien, à des tas d'égards, est bien différent du persan, de celui qu'on trouve en Afrique noire, en Mauritanie, etc. Et puis, avec un passage un peu rapide, disons, du fait qu'il y a des islams, à l'idée que, du coup, s'il y a des islams, du coup, il n'y a pas d'islam. Et avec, disons, de la même façon, pendant toute une époque, on disait « il n'y a pas de texte ». Il y a toutes des interprétations d'un texte, mais évidemment, cette pente est aussi un peu glissante, parce que si il n'y a pas de texte, mais que des interprétations de texte, on peut dire dans ce cas que tous les textes sont équivalents, puisque chacun ne vaut que par ses interprétations, et donc que l'on prenne le Petit Livre Rouge, Mein Kampf, Le Chaboté, Cendrillon, ou n'importe quoi, disons, c'est pareil, et que le texte ne résiste pas du tout, disons, à la diversité des interprétations. Donc, je voudrais me situer, disons, dans une vision des choses dans lequel on essaye à la fois de bien prendre en compte le fait que l'islam est complexe, pluriel, qu'il y a des islams en fonction à la fois des cultures pré-islamiques dans lesquelles l'islam est arrivé, en fonction des rapports entre l'islam et la modernité, en fonction des courants à l'intérieur de l'islam, et que, en même temps, l'islam n'est pas rien, disons, il n'est pas tout, mais qu'il n'est pas rien, et que, quand même, il y a des choses communes à l'intérieur du monde de l'islam. Et ce sont ces choses-là dont je vais essayer de vous parler. Alors, concernant, si vous voulez, les rapports entre l'islam et la démocratie, dont ils ont été très fortement dans l'actualité au cours de ces dernières années, on voit au fond que l'opinion a tendance à osciller entre les moments dans lesquels on se dit « mais ça y est, ça marche, on l'a dit pour la Turquie, on l'a dit pour l'Égypte, on l'a dit pour la Tunisie », puis des moments où on dit « mais non, vraiment, ça ne marche pas », donc c'est actuellement la tendance, disons, par rapport à la Turquie, puis des moments où, après avoir dit « ça marche, puis ça ne marche pas », on redit « mais oui, ça marche », c'est actuellement ce qui se passe à propos de la Tunisie, et... Donc la question est d'aller, disons, au-delà de ces oscillations que l'on peut avoir en fonction de l'immédiateté de ce que l'on observe. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est que dans la vision occidentale de la démocratie, il y a une association intime entre deux dimensions et que ces deux dimensions ne prospèrent pas du tout de la même façon dans les pays musulmans. Disons, la première dimension, c'est la démocratie, du reste, c'est l'étymologie en quelque sorte de démocratie, la démocratie comme étant le pouvoir du peuple par rapport au pouvoir du tyran, par rapport au pouvoir du despote, et donc le fait que le peuple encore, est responsable de son propre destin, prend son destin en main, et que le peuple encore va chasser les tyrans pour exercer le pouvoir, et un pouvoir qui est fait par le peuple et pour le peuple. Et puis, disons, dans notre conception occidentale de la démocratie, celle-ci, disons, la démocratie en accord avec la liberté des modernes par rapport à la liberté des anciens, implique également le respect du pluralisme, des droits de l'homme, de la liberté de conscience, etc. Et donc, on voit que les événements, disons, de ces dernières années le montrent encore, que autant on l'a vu en Turquie, on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie, mais on le voit à certains égards même en Libye, en Syrie, etc. L'idée qu'il serait bon de chasser les tyrans et que le peuple encore doit exercer le pouvoir est une idée qui prospère très facilement, disons, dans le monde musulman. Et au fond, ce qui fait problème, c'est au contraire la question du pluralisme. Alors, cette question, si vous voulez, du peuple encore, au fond, a été très présente, en particulier en Égypte, au moment du renversement, disons, des frères musulmans et de Morsi, dans lesquels l'opinion occidentale a été souvent choquée de ce que a été appelé un coup d'État. Et pour l'Occident, il y a eu clairement un coup d'État, puisqu'il s'agit du renversement d'un pouvoir qui est accédé au pouvoir par des moyens légaux, disons par un scrutin qui était un scrutin tout à fait régulier, et que au contraire, disons, dans le monde égyptien, on a eu de vives critiques de cette vision occidentale. Je vous cite par exemple un militant de gauche disant « Je ne sais pas pourquoi les médias étrangers croient qu'il s'agit d'un coup d'État. L'armée n'a fait que se plier à la volonté du peuple égyptien. » Ou encore, un autre dit « Le 3 juillet n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État a été élu que le peuple n'a pas le droit de le juger. » Ou encore « Nous lui faisons confiance car elle a fait le choix du peuple à propos de la... » Donc, vous voyez, cette fois, on met en avant le peuple. Et donc, quand il s'agit du peuple... C'est pas, disons, les divers éléments du peuple. C'est le peuple considéré de manière collective, et c'est le peuple qui en masse, à travers des manifestations, après avoir renversé Moubarak, a renversé Morsi. Et donc, on a cette référence, disons, qui est forte au peuple. Alors, par contre, quand on considère, disons, les divers éléments de la démocratie vue en Occident comme étant le respect des droits de l'homme, de la liberté de conscience, du pluralisme, de la liberté de la presse, la liberté d'opinion, etc., on trouve, y compris dans les pays, disons, dits du printemps arabe, par exemple, ou en Turquie, considéré comme le pays, à certains égards, le plus démocratique des pays musulmans, des rapports assez problématiques avec ces diverses dimensions. Par exemple, le Reporters sans frontières, disons, a fait une étude, disons, sur la liberté de la presse, qu'elle publie, disons, chaque année. Et dans l'édition 2013, par exemple, sur 176 pays, la Turquie occupe le 154e rang, la Tunisie le 138e, l'Égypte le 158e. Et ce sont des pays musulmans, Soudan, Iran, Somalie, Syrie, etc., qui accompagnent Cuba, Vietnam, la Chine, la Corée du Nord, parmi les 10 derniers, disons, du classement. Et en décembre 2013, disons, le nombre de journalistes détenus était le plus important était la Turquie, avec 40 journalistes contre 35 en Iran qui venaient en deuxième position et 32 en Chine. Donc, liberté de la presse, vous voyez, disons, fait problème, même dans les pays dans lesquels il y a eu un mouvement de démocratique, disons, important. Alors, si l'on considère maintenant, disons, ce qui tourne autour de la liberté de conscience, et en particulier de la liberté religieuse, on a également, disons, des difficultés à les faire admettre dans les pays musulmans. Ainsi, par exemple, alors que l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, dont est affirmé le droit de quitter la religion dans laquelle on est. Au contraire, l'article 10 de la Déclaration sur les droits de l'homme en islam dit « L'islam est la religion de l'innéité ». Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme. Donc il s'agit de protéger les musulmans contre toute tentative, disons, de les faire changer. Alors, et ce qui était frappant, je pense que vous avez remarqué que dans la dernière constitution tunisienne, il y a eu ce qui est considéré comme une innovation extraordinaire dans les pays musulmans, qui est le fait dans son article 6, est autorisé, disons, la liberté de conscience, et en particulier était interdit le fait de poursuivre quelqu'un pour mécréance ou pour apostasie. Et on voit que cela a été dû à un contexte tout à fait particulier dans lequel c'est parce que, disons, à la suite d'une négociation, disons, difficile entre les libéraux et les islamistes, l'on a obtenu cela, et que l'on a obtenu dans un contexte que raconte, disons, un député de l'Assemblée constituante, qui dit, je cite, « L'interdiction du taftir, donc l'équivalent de l'excommunication, qui consiste à qualifier un musulman de mécréant, est venue se rajouter en fin de parcours, et malgré la réticence marquée des islamistes, à la suite d'un événement inattendu, voyant un élu Ennahda qualifié sur les ondes d'un élu de l'opposition d'ennemi de l'islam, avec pour conséquence des menaces de mort à la clé à l'égard de ce dernier. Ce qui fit prendre conscience de l'extrême gravité d'un tel acte, étant entendu qu'avant son assassinat, Chokri Belaïd avait été la cible de tels propos et appel au meurtre, et que cette pratique est courante dans les mosquées radicales. Là, on est dans les choses les plus radicales, mais vous savez aussi probablement que dans les pays musulmans modérés, je parle le Maroc par exemple, un musulman peut épouser une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. C'est interdit par le code de la famille marocain. Vous savez aussi que si dans un ménage mixte, l'enfant est nécessairement, disons, musulman, et par exemple, toujours au Maroc, si une non-musulmane épouse un musulman et que le musulman vient à mourir, on lui enlève ses enfants pour être sûr qu'ils vont continuer à être élevés, disons, dans l'islam. Alors, question donc, fond question, c'est comment comprendre ce qui est assez étonnant, disons, pour des Occidentaux, c'est cette combinaison de, à certains égards, un attachement à la démocratie en tant que pouvoir, disons, du peuple, et de l'autre, un rejet de la démocratie en tant qu'attachement au pluralisme, à la diversité, disons, des opinions et aux vertus du débat. Et en question, disons, qui se pose, disons, d'autant plus, et disons, cet ensemble, disons, que l'on trouve dans les pays musulmans, que par ailleurs, et dans des tas d'autres domaines, les pays musulmans sont extrêmement divers. Pour vous donner, disons, un exemple, si vous allez au Mali, qui est un pays musulman, et donc vous vous promenez au bord du fleuve Niger, vous verrez que les lavandières du fleuve Niger, dont on peut supposer qu'elles sont musulmanes comme l'énorme majorité de la population de ce pays, lavent leur linge, pas du tout en tenue islamique, mais avec la poitrine découverte, ce qui apparemment au Mali est considéré comme une chose parfaitement compatible avec l'islam. Voyez, on est bien bien loin de la burqa afghane. Ces pays sont vraiment très différents. Et si l'on regarde, disons, les conceptions de l'islam que l'on a, on voit qu'entre le syncrétisme avec l'hindouisme qu'on va trouver en Indonésie et le syncrétisme avec l'animisme qu'on va trouver dans les pays d'Afrique noire, on a là encore de grandes différences. Et au fond, on peut se demander qu'est-ce qui fait que ces pays ont quelque chose de commun. Ce qu'ils ont quand même, et malgré tout, disons, de commun, c'est le fait de se référer les uns et les autres à l'islam. Donc, ils se réfèrent les uns et les autres, disons, aux prophètes. Ils se réfèrent les uns et les autres au Coran. Et ceci a, de nos jours, d'autant plus d'importance que, à la suite d'un mouvement qui a commencé au XIXe siècle et qui est favorisé à la fois par le développement du pèlerinage de la Mecque, par l'augmentation de l'alphabétisation, de l'éducation, qui fait que les musulmans ont beaucoup plus accès aujourd'hui aux textes du Coran qu'ils n'avaient accès, disons, il y a quelques décennies, voire quelques siècles, avec en plus maintenant le développement des moyens modernes de communication, avec les prêches qui circulent, avec Internet, etc. Disons, le rapport au texte est beaucoup plus important de nos jours qu'il ne l'était il y a, disons, un siècle, quand, pour l'énorme majorité des musulmans, hein, leur possibilité, disons, d'avoir un accès au Coran n'était pas plus grande que celle de, pour un paysan français analphabète du fin fond de nos campagnes, hein, d'avoir accès au texte latin, disons, de l'écriture. Et donc, de nos jours, hein, il paraît important de, pour comprendre, disons, ce qui se passe dans l'islam, de revenir au texte. D'autant plus, donc, qu'on est dans un grand mouvement, hein, de retour au texte, de retour aux pieux ancêtres et à ce que vivaient les pieux ancêtres. Alors, quand on se tourne, disons, vers le texte, en s'intéressant donc à cette question, hein, de ce qui a rapport avec la démocratie, c'est-à-dire, au fond, avec la question du pluralisme. Donc, quel est le statut du pluralisme dans le texte? Ce qui est très frappant, disons, quand on s'y plonge, c'est qu'on voit, au fond, le statut qu'a, dans le texte, le rapport à la vérité et la forme de l'intelligence. Enfin, disons, en Occident, enfin, on a deux visions de l'intelligence considérées comme complémentaires. Il y a une vision de l'intelligence, disons, qui relève de l'illumination, dans lequel, tout d'un coup, le Eureka d'Archimède, hein, quelque chose, une idée vous arrive, on ne sait pas d'où elle arrive, mais on est bouleversé, hein, on a compris tout d'un coup quelque chose. Et puis, il y a une autre vision de l'intelligence, qui est l'intelligence critique, qui examine, discutaille, questionne, doute, etc. Et donc, dans la vision occidentale, on est dans une sorte d'aller-retour entre ces deux formes d'intelligence dans lesquelles, à la fois, à certains moments, bon, on reçoit, on admire, et à d'autres moments, au contraire, on doute, on critique, etc. Or, dans l'univers de l'islam, on a un extrêmement fort déséquilibre du côté, enfin, déséquilibre, disons, vu d'un point de vue occidental, du côté de l'intelligence qui reçoit, qui est instruite par quelque chose, disons, d'extérieur, qui accueille, par rapport à l'intelligence critique, qui doute, qui met en cause, qui débat, etc. Et cela se voit, disons, dans le Coran, donc elle est affirmée sans cesse, vraiment c'est quelque chose qui revient en boucle et pour lequel, si vous voulez, on fait souvent à propos du Coran l'opposition entre les sourates dites de Médine et celles de la Mecque, mais là il n'y a pas de différence en la matière, revient sans cesse l'idée qu'on a des preuves. On est dans la certitude parce qu'on a des preuves. Des preuves, alors qu'ils sont qualifiés de manière diverse. Hein. On ne se contente pas de parler de preuves. Hein. On va aller parler de preuves qui sont décisives, évidentes, éclatantes, manifestes, explicites, etc. Et donc, ces preuves ne sont pas, je dirais, c'est pas seulement les preuves apportées par le prophète Mohammed, mais c'est quelque chose qui fait partie de tout un régime de connaissances. Hein. C'est-à-dire que les autres prophètes, avant, avaient aussi des preuves, disons, indiscutables. Joseph, Moïse, Jésus, disons, cités par le Coran, par exemple, Joseph leur avait apporté autrefois des preuves décisives, Moïse est venu avec vous avec des preuves irréfutables. Jésus est venu avec des preuves manifestes. Enfin, donc, on est dans la preuve. Et donc, ces preuves sont associées à l'idée qu'on est devant des évidences. Alors, devant des évidences, enfin, on n'a que deux attitudes possibles et rien entre deux. Ou on est honnête. Si on est honnête, on accepte les évidences, on reconnaît les évidences. Ou alors, si l'on est malhonnête, à ce moment-là, on refuse les évidences. Mais seul quelqu'un de malhonnête, d'intellectuellement malhonnête, est susceptible de refuser les évidences. Et donc, le Coran donne une description. Alors là, vraiment, c'est aussi quelque chose qui revient, disons, de manière tout à fait continue, de celui et de ceux qui, n'acceptant pas les évidences, se sont montrés malhonnêtes, alors avec une description dans laquelle ils sont présentés comme pervers, hypocrites, orgueilleux, etc. Et donc, ils sont voués au destin le plus funeste, parce que, disons, ce qu'ils font est vraiment quelque chose de très mal. Et donc, et si le Coran dit que Dieu est miséricordieux, c'est quelque chose qui revient, disons, de manière continue, il précise bien que si Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux pour les croyants. Mais il n'est pas question qu'il soit miséricordieux pour les non-croyants. Il dit « Dieu est l'ennemi des incrédules ». Et donc ils sont voués au destin le plus funeste. Et il dit également, Mohammed est le prophète de Dieu, ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Donc le bon, ça se termine à l'intérieur. Alors on pourrait, si vous voulez, peut-être on abordera ce point dans la discussion, il y a deux citations du Coran qui reviennent en boucle, ceux qui disent, mais non, le Coran est un texte libéral. Qui sont, d'une part, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, et d'autre part, pas de contraintes en religion. Mais ces textes, si vous voulez, ces phrases sont évoquées, quand elles sont évoquées avec l'idée que ce sont des phrases libérales, sont évoquées hors contexte. Par exemple, l'affirmation si Dieu l'avait voulu, ton Seigneur l'avait voulu, il aurait rassemblé tous les hommes en une seule communauté, et suivi immédiatement de la parole de ton Seigneur s'accomplit, je remplirai certainement la géhenne de djinns et d'hommes réunis. C'est-à-dire que, au fond, les dieux s'expriment, disant cette affirmation, si Dieu l'avait voulu, c'est la souveraineté de Dieu et non pas la mansuétude de Dieu. Alors donc, ce rapport, si vous voulez, à l'intelligence, ce rapport à l'intelligence, et du même coup, ce rapport, disons, au doute, et ce rapport, du coup, au débat, disons, est quelque chose dont il marque le Coran, et qui va se retrouver, disons, dans la suite, disons, du monde musulman, et qui va se retrouver déjà dans la philosophie islamique. Ce quand le monde musulman a rencontré la philosophie grecque à travers, disons, ses conquêtes, cela a entraîné un grand mouvement de pensée avec de grands penseurs, Avicenne, Averroès, par exemple, mais qui s'est fait en restant bien dans le cadre de ce qui était pensable dans le cadre de l'islam. Et donc, ce qui est hautement pensable dans le cadre de l'islam, c'est toute une vision de l'intelligence, c'est une vision de l'intelligence qui reçoit, qui reçoit d'en haut, et qui s'ouvre, et donc des références, spécialement dans le schisme, à des anges qui sont les porteurs d'un message d'en haut, et des anges qui l'on écoute, mais que, par contre, l'aspect critique de l'intelligence n'a pas été du tout accepté, disons, par la philosophie islamique. Même chez un auteur comme Averroès, qui est en général considéré comme étant le plus rationaliste, le plus proche de l'Occident parmi l'ensemble des philosophes musulmans, il ne s'écarte pas, disons, de cette vision. À la fois, il fait référence, disons, comme les autres, à la certitude. On trouve, par exemple, dans son ouvrage, le livre « Discours décisif », sans cesse revenir l'idée de syllogisme certain, de démonstration qui ne soulève pas l'ombre d'un doute, de proposition dont nul musulman ne peut douter, etc., etc. Mais même dans le domaine dans lequel il ouvre, disons, une petite porte, disons, à la discussion, on voit que cette porte est vraiment très très étroite et ouvre sur un domaine extrêmement circonscrit, qui est doublement circonscrit. D'abord, parce qu'il considère que toutes les questions pratiques, et en particulier toutes les questions à la fois de morale individuelle et d'organisation de la société, n'ont pas à être l'objet de débats, parce qu'elles ont déjà été réglées, disons, par l'islam, et donc ça ne les concerne pas, disons, le tout le débat, qu'on peut, ne peut débattre que de questions théoriques, comme par exemple, est-ce que Dieu s'intéresse à l'humanité en général ou s'intéresse à chaque humain en particulier ? Je considère qu'on a le droit de débattre ça. Ou encore, est-ce que quand un homme se déplace et que son ombre le suit, est-ce que cela vient d'un phénomène mécanique en quelque sorte, ou est-ce que ça vient de ce que Dieu décide dans chaque cas que son ombre va le suivre ? Alors là, donc Averroès considère qu'on peut débattre, disons, de ce genre de choses. Mais en plus, disons que ce débat est doublement circonscrit, parce que non droit de débattre de ces choses que vraiment les savants, et c'est le rôle du pouvoir politique d'empêcher que les gens ordinaires rentrent, disons, dans ce type de débat. On voit avec, là encore, disons, des affirmations disant que le débat, c'est le lieu de la division, de la violence, et qu'il faut l'éviter. Par exemple, il cite, disons, des courants philosophiques qui, ayant interprété nombre de versets de traditions prophétiques, ont exposé ces interprétations à la foule. Ils ont de ce fait précipité les gens dans la haine, l'exécration mutuelle et les guerres, déchiré la révolution en morceaux et complètement divisé les hommes. Ce qui est un argument, disons, fort raisonnable, mais évidemment qui ne laisse pas beaucoup de place au débat sur l'agora tel qu'il a été valorisé dans les pays démocratiques. Et ce rapport à la vérité, ce rapport à l'intelligence, et donc ce rapport à la façon dont la place, disons, donnée, disons, au doute et au débat, va atteindre juste des domaines qui sont des domaines tout à fait sécularisés. Bon, on le voit dans le domaine, disons, de la science, par exemple, dans lequel on a un rapport à la science dans lequel il y a une fascination pour les résultats de la science, et dans lequel, avec du reste des livres, il y a un livre qui a été un best-seller dans les pays musulmans qui avait pour objet de démontrer que le Coran était en accord avec la science, etc., et même jusque le domaine de l'entreprise. Je dois dire qu'une des raisons, moi, qui m'a amené à faire ce travail, c'est l'extraordinaire surprise, disons, que j'ai rencontrée travaillant dans un domaine très sécularisé, donc qui est celui de l'entreprise, et travaillant en Jordanie sur la réception par une filiale jordanienne d'une multinationale française de la réception, donc, d'un code de conduite conçu par la multinationale, et donc regardant la traduction en arabe de ce code, de voir que tous les propos qui étaient relatifs à l'ouverture du débat, je cite par exemple, le but du travail en équipe n'est pas de parvenir systématiquement à un consensus, mais de progresser en recherchant les différences d'opinion comme un facteur de progrès. Ou encore, gérer la confrontation est une partie intégrante d'un travail en équipe productif, etc., que tous ces propos-là avaient été purement et simplement supprimés par le comité de rédaction, disons de traduction, composé de cadres, de managers jordaniens, qui tous, par ailleurs, avaient été formés aux États-Unis, enfin, n'étaient pas du tout, disons, le jordanien de base, mais on voyait la force, disons, de cette inquiétude, voire de ce refus, en tout cas de cette absence pour le moins de conviction dans les vertus du débat, avait été supprimée. Alors, donc, dans ces conditions, si vous voulez, quand on est dans un univers dans lequel on valorise extrêmement à la fois la certitude et puis l'unanimité, disons, qui s'appuient l'une sur l'autre, hein, parce qu'au fond, si on est certain, on n'a pas de raison de ne pas être unanime. Et si on est unanime, cela conforte le sentiment, disons, que l'on est certain. On comprend que dans cet univers intellectuel, le débat démocratique, et je dirais surtout, non pas le débat démocratique, disons, théorique entre esprits éclairés, mais le débat démocratique tel qu'il fonctionne de fait dans les pays de vieille démocratie, ait du mal à prendre un sens positif. Alors, en même temps, si vous voulez, on pourrait dire oui, mais quand même, l'islam n'a-t-il pas connu des grandes périodes de pluralisme ? Et on cite beaucoup, oui, Grenade, Sarajevo d'autrefois, voire Istanbul, etc. Mais il faut bien voir, disons, que ce pluralisme qui a prospéré en terre d'islam était un pluralisme très différent du pluralisme démocratique. Enfin, c'est un pluralisme que l'on peut symboliser par le système turc, disons, des millets, dans lequel, à l'intérieur d'une société, il y a plusieurs communautés, hein, et qui, à certains égards, disons, vit encore pour une part au Liban. Vous avez plusieurs communautés qui sont définies en particulier par leur religion, et dans chacune de ces communautés, disons, s'auto-administre. Chacune de ces communautés a, pour une bonne part, ses propres règles, en particulier son propre droit de la famille, a ses propres écoles, a ses propres moyens de communication. Et on a très largement une juxtaposition des communautés, avec en plus complété dans les pays musulmans par le système de la dhimmitude, dans lequel les non-musulmans formaient une communauté qui avait tout à fait le droit à l'existence, mais qui avait le droit à l'existence avec un statut inférieur, qui s'exprimait à la fois par le fait que, comme je l'évoquais tout à l'heure, un musulman pouvait épouser une non-musulmane, mais qu'un non-musulman ne pouvait pas épouser une musulmane, que par le statut fiscal était différent entre les dhimmis et les musulmans, que l'accès aux fonctions publiques était différent, etc., et que, de manière assez variable selon les époques, on avait toute une série de discriminations qui s'exerçaient envers ces communautés. Alors, ce qui n'empêchait pas nécessairement de bonnes relations personnelles qui pouvaient s'établir entre les membres de diverses communautés, mais je dirais que des bonnes relations personnelles, on arrive à les trouver dans tout type de circonstances. Si vous lisez la case de l'oncle Tom, vous voyez qu'il pouvait, dans les États du Sud américain, s'établir d'excellentes relations personnelles et même des relations tout à fait d'affection entre les maîtres et les esclaves, et que ce qui pour nous paraît scandaleux aujourd'hui, mais en fait, on observait néanmoins, disons, des choses comme cela. Alors, on pourra, donc je voudrais peut-être maintenant laisser le temps à la discussion, on pourra, si vous voulez, tout à l'heure évoquer une objection qui est souvent faite, oui, mais est-ce que c'est l'islam ou est-ce que ce sont les religions en général ? Et je voudrais juste terminer en disant que, en ce qui concerne l'avenir, on est devant de grands doutes sur la façon dont les choses peuvent évoluer. Évoluer pourquoi ? Parce qu'on a à la fois de grandes incertitudes sur l'évolution de l'islam lui-même, d'un côté, et sur l'évolution des rapports entre l'islam, les pays musulmans et l'islam. Bon, d'abord sur l'évolution de l'islam lui-même. Au fond, on a actuellement la coexistence de deux types d'évolution, disons, de l'islam. D'un côté, celle que j'évoquais tout à l'heure, radicalisation islamique avec un retour au texte, retour aux grands anciens, etc. Et en même temps, on a des courants modernistes à l'intérieur de l'islam, des gens comme Mohamed Harkoun, par exemple, était quelqu'un qui était un musulman, je crois, tout à fait convaincu, même si bien de ses co-religionnaires le taxaient d'apostat, et qui essayait de mettre en raccord l'islam avec la pensée moderne. Alors, il est actuellement, le courant qui paraît l'emporter très largement est le courant plutôt de retour aux textes et retour aux pieux ancêtres, avec une difficulté majeure pour sortir de cela, c'est que vous savez sûrement que dans l'islam, le Coran passe pour être un texte qui a été directement dicté par Dieu au prophète et a été dicté vraiment mot à mot. C'est pas une interprétation humaine, c'est pas quelque chose, un texte inspiré, c'est un texte vraiment, vraiment dicté, dans lequel il n'est pas question de changer le moindre mot. Bon. Et que, du reste, est allé de pair avec ça, le fait qu'il y avait au début, après, disons, la mort du prophète, ont circulé des versions assez différentes, disons, de certains passages, disons, du Coran, mais qu'il y a eu vraiment une élimination systématique de tout texte divergent par rapport au texte officiel, ce qui fait qu'ils ont même, disons, physiquement disparu. Bon. Alors, donc, rentrer dans une vision, enfin, qui est celle que défendent les musulmans modernistes, bon, suppose d'accepter, de remettre en cause cette idée du Coran incréé. Et là, ça suppose, disons, un deuil de la part des musulmans, qui est un deuil qui n'est sûrement pas facile à faire. Alors, en même temps, on voit bien que cette difficulté à rentrer dans le doute, le débat, etc., n'est quand même pas favorable à une évolution très positive de la société, et que ça peut être une incitation à remettre en cause, disons, cette vision, mais cette incitation, disons, rencontre des obstacles qui sont très forts. Alors, par ailleurs, disons, autre évolution que l'on va voir, disons, sous des formes assez différentes, qu'on a vues en Tunisie, mais qu'on voit aussi en Iran, qui est, au fond, les pays, la population des pays musulmans peut avoir des évolutions par rapport au rôle politique de l'islam. Bon, donc on a vu qu'en Tunisie, des forces qui sont des forces plutôt modernistes, marquées par des visions occidentales de la démocratie, bon, sont arrivées à faire passer un ensemble de choses dans la constitution tunisienne, bon, que la situation n'est pas évidente, que les débats restent vifs, que la société reste divisée, mais on peut très bien imaginer, disons, que cette situation se poursuive. Et par ailleurs, un des pays qui, pour certains analystes, est le plus susceptible d'évolution dans un sens démocratique peut apparaître bizarrement comme étant l'Iran, dans lequel actuellement, disons, la République islamique, disons, n'est pas particulièrement libérale, mais qu'un effet de la République islamique semble d'avoir engendré dans la population une désaffection assez forte par rapport, en tout cas par rapport à l'islam comme étant un cadre politique, voire par rapport à l'islam, disons, tout court. Je ne suis pas allé en Iran, mais bien des gens qui y sont allés disent actuellement, en Iran, vous pouvez aller dans les mosquées à l'heure de la prière le vendredi, qu'elles sont vides, et que ça a été un effet de la démocratie islamique, qui a entraîné une sorte de rejet, disons, là. Donc là, disons, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer en Iran? On ne sait pas. Et puis là, également, disons, dans un pays comme l'Indonésie, qui a été quand même marqué par une tradition plutôt hindouiste et donc plutôt pluraliste, dans lequel on a actuellement une montée d'un islam fondamentaliste, mais il n'est pas certain qu'il triomphe. Et donc on est, comme dans toutes les sociétés, disons, dans des combats. Alors, ce qu'on peut dire, quand même, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que il me semble qu'on peut difficilement imaginer que les sociétés, que les pays dominés par l'islam arrivent à faire la paix en eux-mêmes et arrivent à sortir, disons, des confrontations internes qui prennent corps ou se dessinent en leur sein, qu'on peut difficilement imaginer qu'elles arriveront à une paix interne, que ce soit entre modernistes et islamistes, ou que ce soit entre sunnites et chiites, sans une évolution de l'islam, dont certains musulmans sont actuellement les apôtres, mais dont on peut douter qu'elles se produisent à très court terme. Merci à vous.